VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 17 octobre 2017, en direct de Washington. Idrissa Seroudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer, les titres.
Protestation violente à Sokodé, au Togo, après l'interpellation d'un imam local proche d'un leader de l'opposition.
La RDC, membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, malgré une vive opposition des États-Unis et d'ONG.
Le bilan de l'attentat terroriste de samedi à Mogadiscio, en Somalie, s'établit maintenant à plus de 300 morts.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, plaide en faveur d'une aide internationale accrue à la force G5 Sahel dans un rapport au Conseil de sécurité.
En Irak, les forces gouvernementales ont hissé le drapeau irakien au-dessus de Kirkuk à la place de celui des Kurdes.
Madrid a donné un ultime délai de 3 jours au président séparatiste de Catalogne pour qu'il revienne à la légalité.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho.
Pour l'instant, le journal.
Au Togo, le quartier à Sokodé, ville située à plus de 330 km au nord de Lomé, a connu en début de soirée hier une ambiance tendue. Des agents des forces de sécurité ont fait irruption dans la maison de l'imam Alpha Hassan, un proche de l'opposant Tikwi Achadam, pour l'interpeller. Selon notre correspondante Lakai Lawson, cette arrestation a été suivie d'un mouvement spontané dans la ville de Sokodé. Des jeunes réclamant la libération de l'imam ont érigé des barricades sur la Nationale 1 et brûlé des pneus sur la voie publique. Des bâtiments publics, notamment la poste et le siège de Togo Télécom dans la ville, auraient été également saccagés et des domiciles privés de certains cadres du parti au pouvoir seraient aussi la cible des manifestants. Pour contenir la manifestation, les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène. En vain, à Goué, une banlieue de Lomé où réside une forte communauté native de Sokodé, s'est aussi embrasée. Des barricades ont été érigées, des pneus brûlés et des bâtiments publics pris pour cible.
La République démocratique du Congo est devenue hier membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU malgré une vive opposition des États-Unis et d'ONG. Le groupe africain a soutenu sa candidature qui a obtenu 151 des 193 votes. Éric Manirakiza.
L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a jugé que le soutien à la RDC constitue un manquement inexcusable à la promotion des droits de l'homme par les pays africains. Elle doit se rendre prochainement à Kinshasa. Human Rights Watch a estimé que la RDC ne mérite pas un siège dans ce conseil. Louis Charbonneau, directeur à New York de Human Rights Watch, a même parlé d'une insulte pour les nombreuses victimes des abus commis par le gouvernement congolais. Le conseil enquête sur les atrocités commises en République démocratique du Congo par les forces armées du pays et des milices dans la région du Kasaï. En dépit de ces contestations, la RDC a été élue sans difficulté en recueillant la majorité confortable de 151 voix alors qu'elle avait besoin seulement de 97 voix. L'Angola, le Nigeria et le Sénégal ont complété la liste des 4 sièges réservés au continent africain. L'élection l'année dernière de l'Arabie Saoudite et de la Chine au Conseil avait également suscité de vives critiques.
Et détresse à Mogadiscio, où les habitants ont désespérément cherché hier les nouvelles de leurs proches portés disparus depuis l'attentat de samedi dans la capitale somalienne. Il y a eu plus de 300 morts et au moins 300 blessés. Claire Morin-Gibou.
Le ministère somalien de l'information a communiqué hier un premier bilan, tout en laissant entendre qu'il pourrait s'alourdir. Le gouvernement a mis en place un comité d'urgence pour aider les familles à chercher leurs proches disparus. Un fonds a aussi été créé pour ceux qui ont perdu leur maison dans l'explosion. Dès dimanche, les habitants de la capitale avaient commencé à partager des noms et des photos sur Facebook pour tenter de retrouver leurs proches disparus. Cet attentat au camion piégé est survenu samedi au carrefour K5, dans un quartier commerçant très animé de Mogadiscio. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les autorités n'ont aucun doute que les islamistes Chebab sont derrière cette attaque.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande une aide internationale accrue à la force G5 Sahel avant une visite du Conseil de sécurité en fin de semaine dans la région. Le Sahel est aujourd'hui piégé dans un cercle vicieux où une faible gouvernance politique et sécuritaire combinée à une pauvreté chronique et aux effets des changements climatiques favorise le développement de l'insécurité, résume M. Guterres dans un rapport remis au Conseil lundi. Il cite la porosité des frontières des 5 pays, Mauritanie, Tchad, Mali, Burkina Faso et Niger, qui ont décidé en juillet, avec l'appui de la France, de créer la force G5 Sahel.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a demandé hier à la police et à l'armée de stopper la folie qui règne dans l'état central du plateau, épicentre des tensions interreligieuses. Le week-end dernier, des bergers nomades peuls musulmans ont tué au moins 20 personnes dans une série d'attaques contre des agriculteurs sédentaires chrétiens, défiant le couvre-feu instauré vendredi par le gouverneur de l'état après une escalade des tensions entre les deux communautés.
Le nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, a débuté hier à Rabat sa première tournée régionale dans la plus grande discrétion. Sa mission, relancer la médiation entre le Maroc et les indépendantistes du Polisario afin de sortir ce vieux conflit de l'impasse. L'ex-président allemand doit poursuivre ses entretiens aujourd'hui, mardi, avant de partir mercredi matin pour la région de Tindouf. Sa tournée prévue jusqu'au 25 octobre doit ensuite le conduire à Alger puis Nouakchott, selon un responsable de la communication aux Nations Unies, à New York.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Irak, les forces gouvernementales ont pris aux Kurdes à Kirkuk le siège du gouvernorat, des sites militaires clés ainsi qu'un champ pétrolier. Les troupes de Bagdad, qui ont été entraînées par les Américains, sont entrées dans la ville septentrionale lors d'un raid éclair et sur ordre du premier ministre Haider al-Abadi. Elles ont hissé le drapeau irakien à la place de celui des Kurdes.
Ce développement est intervenu moins d'un jour après le lancement de l'opération en réaction au récent référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien, référendum que le gouvernement central a déclaré illégal. Lors d'une conférence de presse hier à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a réaffirmé la neutralité des États-Unis dans cette affaire, ajoutant « Nous avons depuis de nombreuses années de très bonnes relations avec les Kurdes, comme vous le savez, et nous sommes aussi du côté de l'Irak. »
Madrid a donné un ultime délai de 3 jours au président séparatiste de Catalogne pour qu'il revienne à la légalité, après son refus de dire clairement hier s'il écartait une déclaration unilatérale d'indépendance. Le point avec Morgane Guiriec.
Le premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a écrit à Carles Puigdemont pour lui dire qu'il n'avait plus que 3 jours jusqu'à jeudi pour revenir dans le droit chemin. Le président catalan avait exprimé son souhait de dialoguer pour les 2 prochains mois tout en refusant de préciser si sa région avait ou non déclaré l'indépendance. Il estime avoir un mandat pour faire sécession après le référendum du 1er octobre, mais a proposé de suspendre sa déclaration pour laisser une chance au dialogue. L'influente maire de Barcelone, Ada Colau, lui a demandé de renoncer à toute déclaration unilatérale. Les milieux d'affaires l'ont également appelé à faire marche arrière, alors que des centaines d'entreprises ont commencé à fuir la région. Le premier ministre Mariano Rajoy, qui refuse tout dialogue avec les séparatistes, menace, faute de réponse satisfaisante, de suspendre l'autonomie de la Catalogne.
Ici aux États-Unis, quelques 11 000 pompiers montrent pour la première fois de l'optimisme après avoir combattu pendant 7 jours les terribles incendies qui ravagent le nord de la Californie et ont fait au moins 41 morts. Le point avec Solange Niamoulissa.
Les incendies hors de contrôle vendredi ont été maîtrisés à 70% hier matin. Les progrès effectués sur plusieurs fronts ont permis de lever des ordres d'évacuation, permettant ainsi à beaucoup d'habitants de retourner dans leur quartier. Les feux ont réduit en cendres près de 86 000 hectares et tué au moins 41 personnes. Au moins 5 700 bâtiments sont partis en fumée. Le président Donald Trump a déploré hier les terribles pertes humaines. Il a rappelé avoir émis une déclaration de catastrophe naturelle pour la Californie. Ces incendies ont progressé très vite, attisés par des vents soufflants jusqu'à 80 km/h en période de sécheresse. Les régions de Napa et Sonoma, les plus touchées, sont très touristiques et abritent de nombreuses exploitations viticoles.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Parier sur l'Afrique pour nourrir la planète, c'est le thème d'une conférence qui s'est ouverte hier dans l'Iowa aux États-Unis. L'événement, qui dure jusqu'au 20 octobre, accueille plus de 1200 participants de plus de 65 pays et coïncide avec la Journée mondiale de l'alimentation. Le président de la Banque africaine de développement, lauréat du prix mondial de l'alimentation 2017, y prend part. Akin Wumi Adesina veut accélérer le développement de l'agriculture sur le continent grâce à ses stratégies Nourrir l'Afrique. Il a promis d'y investir 24 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. La Banque mondiale est en train de promouvoir un fonds pour favoriser la création d'entreprises chez les femmes dans les pays en voie de développement, dont en Afrique. La Women Entrepreneurs Finance Initiative a le soutien d'Ivanka Trump, la fille du président américain. L'initiative vise à stimuler l'accès des femmes aux capitaux dans les pays en voie de développement. Ivanka Trump estime que les entreprises détenues par des femmes dans ces pays souffrent d'un déficit de financement de 300 milliards de dollars par an, soit parce qu'elles ne sont pas en mesure d'emprunter, soit parce qu'elles ne reçoivent que des offres trop coûteuses ou à court terme. Les pilotes de la compagnie sud-africaine Mango, une compagnie aérienne à bas prix appartenant à la South African Airways, sont en grève depuis hier. Ils réclament une augmentation salariale de 8,5%. La majorité des 110 pilotes de Mango participent à cet arrêt de travail.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Kernot Rohr met en garde le Nigeria sur le paiement des primes avant le Mondial 2018.
Eh oui, la question des primes et des indemnités qui pose souvent problème aux équipes africaines pendant la Coupe du Monde doit être évitée. Un tel débat serait néfaste pour notre préparation. C'est ce qu'a déclaré le sélectionneur allemand lors d'une conférence de presse à Abuja hier. J'ai dit aux officiels et au président de la fédération que tout devait être tranché avant le début de la compétition, a déclaré Gernot Rohr, convaincu que les Super Eagles du Nigeria pourraient aller plus loin que les huitièmes de finale, un stade qu'ils avaient atteint en 1994 et en 2014. On rappelle que cette année, le Nigeria doit recevoir 12,5 millions de dollars de la part de la FIFA pour sa qualification au Mondial 2018, une somme que les 37 joueurs ayant pris part aux éliminatoires devraient se partager.
Cela se précise encore un peu plus pour Rabah Majer.
Interrogé par la chaîne arabophone En Nahar, l'ancien ballon d'or africain a confirmé les contacts très avancés avec la Fédération algérienne de football pour le poste de sélectionneur des Fenech. Une conférence de presse est prévue ce jeudi. Celui qui passa par deux fois sur le banc de l'Algérie dans les années 90-2000 devrait donc, sauf retournement de dernière minute, succéder à l'Espagnol Lucas Alcaraz en instance de limogeage.
Coupe du monde des moins de 17 ans.
Mali-Irak en huitième de finale de cette Coupe du monde de la catégorie. C'est tout à l'heure à Goa. Les Allemands hier se sont qualifiés en battant la Colombie facilement 4-0 et les Américains qui giflent le Paraguay 5-0.
La Tunisie, première nation africaine au classement FIFA.
La FIFA qui a publié hier la dernière version de son classement mondial des équipes nationales. Après la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dans la zone Afrique, eh bien c'est la Tunisie qui est la première nation africaine, 28e plus 3 points, devant l'Égypte, 30e stable. Le Sénégal qui gagne une place à la 32e place. À noter la belle remontée du Maroc qui entre dans le top 50. Le Maroc qui est désormais 48e. La RDC, 35e plus 7 places. Le Burkina Faso qui perd 6 places, 55e. La Côte d'Ivoire perd 7 places, 61e. Et l'Algérie, 67e. C'est ainsi la nouvelle hiérarchie africaine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le retour des réfugiés qui sont dans le camp de Mbeira en Mauritanie ne sera pas facile. C'est le constat fait par le chef de la tribu Kel Ansar. Il vient de boucler une tournée de 10 jours à Tombouctou, Touadinit et dans le camp des réfugiés en Mauritanie. Le chef des Kel Ansar regrette que l'État n'ait rien fait, selon lui, pour faciliter le retour des réfugiés, estimant qu'aucune structure d'accueil ne fonctionne et que les structures sociales de base manquent dans les localités d'accueil. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Deuxième 10 jours, cette tournée du chef de la tribu Kel Ansar a été longue parce que le chef de la tribu est allé à la rencontre des communautés, des chefs de fraction, tout comme les jeunes et les femmes de plus d'une vingtaine de localités. Abdelmajib Ag Mohamed Ahmad, dit Nasser, chef de la tribu Kel Ansar.
C'est juste une prise de contact avec les communautés de ma tribu, à commencer par les parents du camp des réfugiés d'Embara. Je suis allé à la frontière mauritanienne pour rencontrer des communautés, précisément les communauté Izmatan à Gendofar, à côté de l'Arnon. J'ai fait passer un message de paix, un message de cohésion sociale. Je demande aux gens d'être unis, d'aider les pays à retrouver sa stabilité. Mais la zone est confrontée à des problèmes de sous-développement. Ça ne va pas du tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de centre de santé.
En plus des régions de Tombouctou et Taoudini, il s'est rendu dans les camps des réfugiés de Mbeira sur le territoire mauritanien.
J'ai constaté que les gens vraiment étaient à l'aise. Ils étaient à toutes les conditions. Ils sont chez eux, ils ont des écoles, ils ont des centres de santé, ils ont l'eau, ils ont de la nourriture. Donc ils sont vraiment dans toutes les conditions. Donc c'est pourquoi j'ai dit, les gens ne vont pas abandonner ces conditions pour aller dans un terrain où il n'y a rien. Il faut qu'ils aient au moins le minimum, c'est l'eau à boire sur tous les sites. Absolument rien ne fait. Et il faut que l'État malien envoie une mission d'évaluation pour savoir ce qui se passe. Pour si des milliards ont été investis, c'est faux, rien n'a été investi au nord. Je parle de la zone de Goundam, au nord de Goundam, Farage, Razelma, Larnab, Gargando, et rien n'est fait pour accueillir les réfugiés.
Dans les conditions actuelles, il est difficile, selon lui, d'organiser des élections de proximité.
Pas organiser des élections de proximité à l'absence des populations. Ce n'est pas démocratique, ça ne se fait pas. C'est des problèmes. On ne peut pas élire des maires sans la population. Donc il faut nécessairement que l'État fasse rapidement quelque chose pour que ces populations-là reviennent chez elles. Et c'est en ce moment qu'on va organiser les élections communales, les élections régionales, les élections présidentielles. Donc ça, c'est la première des choses que l'État doit faire. Faire viabiliser les sites d'accueil avant les élections, rapidement, le plus rapidement possible, sinon c'est le chaos.
C'est grâce aux combattants du Congrès pour la justice à l'Azawad CJA que le chef de la tribu Kel Ansar a pu faire sa tournée sans inquiétude.
Et je les ai utilisés pour me sécuriser dans toute la tournée parce que l'État est absent. J'étais obligé de m'appuyer sur les combattants de CJA pour me sécuriser partout où je suis allé.
À l'issue de cette tournée, les populations visitées ont souhaité avoir de l'eau potable, la sécurité et le retour de l'État avant celui des réfugiés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Toujours au Mali, obsèques aujourd'hui de l'écrivain Yambo Wologem, décédé vendredi dernier chez lui à Sévaré. Âgé de 77 ans, le premier Africain à obtenir le prix Renaudot avait une autre vision du monde. Pour lui, toute créature est divine. Notre correspondant Mamoudou Bokoum nous dresse le portrait de l'homme.
Ce fils unique d'un inspecteur d'enseignement est né dans le pays d'Ogon il y a de cela 77 ans. Yambo Wologem, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait ses études secondaires à Bamako avant de se rendre au lycée Henri IV en 1960 en France. Brillant étudiant, l'enfant de Bandiagara est licencié S-Lettres. Il a obtenu également sa licence en philosophie, puis un diplôme d'études supérieures en anglais et un doctorat en sociologie. Avec sa belle plume, Yambo Wologem a publié plusieurs écrits, dont le plus célèbre est Le Devoir de violence. Ce qui lui a valu le prix Renaudot en 1968 et il a été le premier Africain à l'obtenir. C'est ce même roman qui a été source d'inquiétude pour lui. L'enseignant du lycée Charenton à Val-de-Marne, en banlieue parisienne, est toujours avec sa passion pour l'écriture. Ambibé Ologem est son fils cadet.
Les activités qu'il mène, il aime parler et il aime écrire tout le temps, parce que l'écriture c'est une passion, il le fait très souvent. Mais il m'a quand même demandé de ne publier aucun de ses écrits, parce que comme il a été accusé une fois, il dit que même s'il ne serait plus là, qu'il m'a demandé de ne jamais publier ses romans, sinon on va m'accuser moi aussi de dire des choses que je ne voulais pas dire au bec, voilà.
Polyglotte, cette référence africaine et mondiale était un grand musulman praticien. Pour lui, toute création est divine. Yambo Ologem.
Les gens se promènent avec des sacoches là. Et ils ont des photos là, on a dit création d'emploi. Dieu crée la vie, Dieu crée la mort, Dieu crée le soleil, Dieu crée la lune. Toi tu dis que tu crées. Des présidents, même européens, s'amusent, et le français est leur langue. Ils ont pour là décret portant création, loi portant création. Non, on dit décret portant institution, décret portant inauguration, mais on n'emploie pas le mot création. Dieu est le seul créateur.
L'auteur de Les Mille et Une Bibles du sexe a une vision critique pour nos dirigeants d'aujourd'hui.
Les gens viennent au pouvoir, moi je ne savais pas, je pensais qu'ils étaient patriotes. Ils viennent pour avoir de l'argent, ils viennent pour rouler dans des voitures climatiques. C'est pas ça? Ils ne viennent pas par patriotisme.
Depuis 53 ans, cet habitué des grandes villas et de grands restaurants occidentaux était dans les oubliettes à Sévaré Mopti avec sa femme Korka dans une situation peu digne d'un homme de son rang. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République centrafricaine, l'opposition dénonce ce qu'elle appelle l'acharnement du pouvoir sur certains de ses leaders. La semaine dernière, plusieurs personnalités politiques ont été auditionnées par la justice sur les violences à l'intérieur du pays. Chose que la classe politique voit d'un mauvais œil. Sur place à Bangui, Freeman Sipila.
En août dernier, le gouvernement avait mis en place une commission pour enquêter sur les violences éclatées au mois de mai dans les localités d'Alindao, Niemielwa, Bangassou, Bria et bien d'autres. Trois mois après l'ouverture des enquêtes, la justice convoque une dizaine de personnalités politiques, parmi lesquelles Ferdinand Alexandre Nguindé, ancien président du Parlement de la Transition et numéro un du parti Rassemblement pour la République.
3 heures d'entretien, aucune question concernant des preuves d'accusation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pays puisse retrouver la paix et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que le pouvoir est en train d'imaginer, en train d'instrumentaliser. Ce que nous regrettons et que nous condamnons fermement, il ne faudrait pas que le pouvoir judiciaire, qui est considéré comme le rempart du peuple, se laisse instrumentaliser par le pouvoir en place.
Pour l'opposition, il s'agit d'un acharnement ou du moins d'une chasse aux sorcières organisée par le pouvoir. Ferdinand Alexandre Nguindé.
Le premier constat que nous pouvons faire, c'est une véritable chasse aux sorcières à l'attention des leaders de l'opposition. Cette commission d'enquête judiciaire a été mise en place par le ministre de la Justice. Donc, il ne peut qu'agir sur instruction du président de la République et du premier ministre chef du gouvernement. Le pouvoir en place, au lieu de s'occuper des questions sécuritaires, leur seul objectif aujourd'hui, c'est de chercher à invalider les potentiels candidats aux prochaines élections présidentielles.
Selon le parquet de Bangui, ces auditions n'ont rien d'extraordinaire. Elles répondent à l'exigence de la loi. Éric Didier Tambo, procureur général près la cour d'appel de Bangui.
Depuis le 1er août 2017, nous avons commencé à investiguer sur ces crimes de masse qui ont eu lieu dans ces villes précitées. Et nous avons entendu beaucoup de gens. Et toujours dans le cadre de la recherche de la vérité, puisque nous sommes en train d'investiguer, nous avons invité le président Nguindé et Mbonigumba. Vous vous souvenez que c'est des personnalités de ce pays qui ont géré ce pays. Entre-temps, certaines personnes les ont accusés en public, devant la presse, d'être les présumés auteurs de ces faits-là. Et donc, par rapport à cela, nous avons convoqué les gens qui ont fait la dénonciation à la radio et ont fait les conférences de presse. Ils sont tous passés ici devant la commission, nous les avons entendus. Et bien, nous avons pensé que puisqu'on les a accusés, et ces faits-là sont assez graves ici, il fallait les auditionner sur ces faits-là. Mais nous avons pris soin de les inviter à venir et à être auditionné comme témoin. C'est dans ce cadre-là que nous avons invité à venir être auditionné.
Sur la question d'instrumentalisation de la justice par le pouvoir, le procureur général répond.
La loi nous dit, quiconque a des informations, si nous pensons qu'on doit interroger telle ou telle personne, on va le convoquer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il n'est pas interdit à quelqu'un d'être entendu.
Selon la justice, l'enquête se poursuit et les auditions également pour faire la lumière sur les accusations portées à l'endroit de certaines personnalités sur la montée des violences à l'intérieur du pays. Freeman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Somalie, meurtri comme jamais auparavant. L'attentat de samedi à Mogadiscio est le plus meurtrier de l'histoire du pays. Les Américains se disent prêts à renforcer leur soutien militaire aux Somaliens. Mais pourquoi la Somalie est-elle toujours le théâtre d'attaques terroristes? La tragédie complique-t-elle davantage la tâche du président Mohamed Abdullahi Mohamed après ses 9 mois au pouvoir? La communauté internationale fait-elle assez pour sauver ce pays, surtout face au danger Chebab? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington. Le Tchad maintenant, les retraités ont du mal à joindre les deux bouts réunis en Assemblée générale le week-end passé à la Bourse du Travail de N'Djamena. Ces retraités ont exigé la totalité des 4 coupons qui correspondent à 4 trimestres, alors que le gouvernement proposait de payer un seul coupon à partir de lundi, c'est-à-dire hier. André Kodmadjingar fait le point.
Les responsables de la Fédération des syndicats de retraités civils, militaires, veuves et orphelins du Tchad ont du mal à faire la restitution de la rencontre qu'ils ont eue avec les responsables de la caisse qui le gère. Assis sur le sol ce week-end sous les nimes de la Bourse du Travail, puisque rattrapé par le troisième âge, certains s'expriment à peine sur leur situation. Ils refusent catégoriquement la proposition de la Caisse nationale de retraités relative au paiement d'un seul coupon sur 4 à partir de ce lundi.
Maintenant, avec nos enfants, nous sommes au bord de la rue parce qu'on n'a pas payé la location pendant une année. Et vous parlez de 2 coupons, un coupon, 29 400 francs. Vous n'avez même pas honte de prononcer ce un coupon-là.
Ils vont nous traîner avec un coupon qui le disent là jusqu'en janvier, c'est une franche vérité.
Nous, les veuves, nous voulons 2 coupons. On ne peut pas accepter un coupon, il faut 3.
Nous ne sommes pas des mendiants, nous revendiquons ce qui nous revient de droit. Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'argent au Tchad, il y a l'argent. Ces 2 coupons, là-même, j'en suis contre, moi j'en veux 4.
Même préoccupation pour les retraités des provinces du Tchad. Jean-Baptiste Laoukoulé est le secrétaire général de la Fédération des syndicats de retraités du Tchad.
Compte tenu de la situation, le minimum que la province de Moundou peut accepter, c'est 2 coupons. Cette réponse est la même pour Koumra, pour Kélo, pour Bangor. Nous n'avons pas encore reçu la réponse de Abéché, de Mahou, de Faya.
Un retraité qui a tenté de convaincre les autres à accepter un coupon avant de lutter pour le reste a failli être lynché, n'eût été l'intervention de quelques-uns.
Acceptons, prendre un coupon, mais je conseille le prix. Attention, je dis attention d'abord. Écoutez, s'il y a contraire, écoutez d'abord. Attendez d'abord, attendez. Il vous manque d'informations, camarades. Je vous dis la vérité.
Pour empêcher leurs collègues retraités comme celui qui vient de faire cette proposition de venir à la caisse ce lundi, des résolutions fermes ont été prises.
La solution, c'est de fermer pas la caisse, mais les guichets. Entendons-nous.
Oui. Dans le bureau, mais les guichets au fer.
Aucun retraité ne va rentrer aussi.
Si vous partez pas, vous
ce que nous allons faire, nous allons tout mettre en œuvre pour empêcher les compatriotes qui peuvent venir toucher un coupon.
Dès lors, le bras de fer est engagé entre gouvernement et retraités du Tchad. Pour payer un coupon à tous les retraités, il faut débloquer 4 milliards et demi de francs CFA, alors que ces retraités revendiquent au total 4 coupons estimés à environ 20 milliards de francs CFA. André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.